Et comment se prépare l'après? L'après, eh bien, c'est le nom de cette association pour la République écologique et sociale, l'après, qui vient d'être créée dans les Alpes du Sud. Bonjour Laurent Hérault-Chaume.
Bonjour.
Vous êtes le relais départemental de l'après dans les Hautes-Alpes, je le disais, qui vient d'être créé. Les premières réunions auront lieu cette semaine du côté de Gap ou encore d'Aimé. Qu'on soit très clair, on parle de politique. Est-ce qu'on parle de parti politique?
Alors pour l'instant, c'est pas un parti. On n'en est pas loin, pour être très honnête. En tout cas, d'un mouvement politique qui est la conséquence de plusieurs choses. Déjà, d'une forte implication de nombreux militants dans le nouveau Front populaire, de gens qui ont envie de l'unité sur un programme écologique et social. Et puis, de tensions qu'il y a eu à l'intérieur de la France insoumise au moment des élections législatives. Bon, moi, j'ai jamais appartenu à la France insoumise, donc je n'ai pas d'avis sur ce qui s'est passé, mais... L'après est né avec cette volonté à la fois unitaire et radicale, avec notamment des personnalités comme Clémentine Autain, Alexis Corbière, ouais. Voilà, que beaucoup de gens connaissent.
Oui, mais vous avez fait partie de Ensemble, le mouvement Ensemble, oui. Alternatif de gauche écologiste et solidaire. Ça reprend les mêmes points?
Oui, alors moi je suis toujours membre de Ensemble. Là en ce moment, il faut que les gens, on est tous un petit peu sidérés par la situation politique nationale et internationale. Ce qui est à l'après est un petit peu le point positif de la situation politique, puisque il y a toute une dynamique à la fois avec beaucoup de monde et puis des organisations politiques qui souhaitent se rassembler, fusionner. Il y a déjà le mouvement GDS, qui est le mouvement de Gérard Filoche, qui a décidé de fusionner avec l'après. Il y a des discussions avec Génération, avec le mouvement Picardie Debout, qui est le mouvement de François Ruffin. Donc, il y a un effet un petit peu boule de neige, si je puis dire, avec beaucoup de militants qui se disent, bien sûr, on est tous différents, mais dans la situation actuelle, vu la gravité de la situation, il faut qu'on se rassemble, il faut qu'on se réunisse de manière la plus démocratique possible, avec notre diversité, mais pour pouvoir faire face à tout ce qui nous arrive.
Dans cette ligne du nouveau Front populaire qui a vu le jour pour les législatives qui ont lieu l'an dernier, le nouveau Front populaire, il est mort aujourd'hui.
Certains voudraient qu'il soit mort, en tout cas, c'est sûr.
C'est qui certains? Le Parti socialiste?
Il y a d'ailleurs une réunion nationale des collectifs locaux du Nouveau Front Populaire qui se réunira à Paris le 22 mars. Il y a des collectifs partout en France. Les militants de l'après sont très impliqués dans ces collectifs citoyens qui réunissent à la fois des représentants d'organisations, mais aussi des gens qui n'appartiennent à aucun mouvement politique. Pourquoi le Nouveau Front Populaire n'est pas mort?
Parce que la France Insoumise n'est pas morte.
La France Insoumise, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que personne ne peut décider qui est dedans ou qui est dehors, en dehors du Nouveau Front Populaire. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des stratégies électorales pour l'élection présidentielle qui commencent déjà à apparaître. On voit très bien que M. François Hollande voudrait revenir, que M. Mélenchon est déjà candidat pour être candidat à la présidentielle. Ces dynamiques-là, qui sont des dynamiques et des stratégies politiques aussi et électorales, font du mal à l'unité, mais on voit très bien que dans toutes les organisations, évidemment chez les Verts, au Parti communiste, mais aussi au Parti socialiste et à la France insoumise, la plupart des militants sont des partisans de l'unité sur un programme politique clair, mais dire que le nouveau Front populaire est mort, pour l'instant, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, par exemple, prouve tout à fait le contraire, puisque, par exemple, sur la journée dédiée au groupe écologiste et social, dans lequel sont les députés de l'après et de Génération, il y a eu deux propositions de loi qui sont passées grâce à la mobilisation de tous les députés du Nouveau Front Populaire qui ont fait passer l'interdiction des PFAS et un impôt de 2% sur les revenus des très très riches. Donc ces deux propositions de loi, elles sont passées grâce à l'unité du Nouveau Front Populaire. Et puis, dans la réalité du terrain, vous savez, il y a ce qui se passe à la télé, et puis sur le terrain, ouais. La plupart des gens, ils ont envie, et ils voient bien la gravité des choses, ils ont envie de travailler ensemble.
Oui, alors vous êtes plutôt optimiste, hein, Laurent Hérochaume, parce que quand même, bon, vous dites le Nouveau Front Populaire, grâce à lui, on fait passer certaines choses, oui, et puis on peut dire aussi que le Nouveau Front Populaire n'a pas vraiment existé quand il s'agissait de censurer ou non le budget. D'ailleurs, la France Insoumise a accusé le Parti Socialiste d'avoir interrompu le Nouveau Front Populaire après ne pas avoir censuré le budget. Vous êtes plutôt optimiste dans votre discours.
Oui, ben, optimiste et volontariste surtout, c'est-à-dire que...
Mais pas très réaliste.
Qu'est-ce qu'on a comme proposition politique? Bien sûr que le Parti Socialiste aurait dû censurer le gouvernement, et il a quasiment rien obtenu des négociations qui ont été lancées. C'est pas grave de vouloir parfois négocier, mais on peut pas laisser du pouvoir à ce gouvernement qui non seulement applique une politique ultralibérale, mais en plus, et austéritaire, mais en plus à des phrases et des positions politiques, que ce soit M. Darmanin ou M. Retailleau, qui flirtent vraiment très fortement avec l'extrême droite. Donc évidemment, il fallait censurer, mais c'est pas de l'optimisme. C'est-à-dire que moi, très clairement, si le choix qu'on nous propose dans les mois qui viennent, c'est un combat de chef et de coq autour de François Hollande et de Jean-Luc Mélenchon, je crois que la gravité de la situation nous amène à des questions bien plus importantes. Et donc, j'invite tous les militants qui croient dans ce désir de se rassembler autour d'un programme politique clair. Et en plus, on va dire la colonne vertébrale de ce programme, c'est le programme du Nouveau Front Populaire. On a déjà cette base-là qu'il faut continuer à travailler. Mais je veux dire, on a un programme très clair qui permettrait en plus d'équilibrer les comptes de la nation, qui permettrait de faire face à l'urgence écologique et vraiment, le mot urgence n'est même pas à la hauteur de la gravité de ce qui nous arrive.
Et donc, urgence écologique, on est contre les JO.
Eh bien, sur les Jeux Olympiques, moi, vous savez, je suis...
Les JO 2030, je précise.
Je suis bien sûr, ouais. Je suis au Alpin pure souche, hein, les Alpins connaissent. Je pratique le ski et j'aime mon département. Et c'est ce qui fait que j'ai été triste à la fermeture de ces uses, mais évidemment, il fallait fermer ces uses et il y a beaucoup de stations sur lesquelles il faut arrêter d'investir sur les canons à neige et sur l'hiver. Et tous les professionnels du tourisme, tous les professionnels des stations savent qu'en 2030, la situation sera encore plus grave qu'en 2027.
Oui, mais les Jeux Olympiques ont lieu à Briançon et à Montgenèvre.
Oui, et à Nice et au Grand Bornand, par exemple. À Nice, où on va construire une patinoire pour plusieurs dizaines de milliers de spectateurs.
Alors, ça n'est pas fait encore. Hein, ça n'est pas fait. La ministre des Sports a clairement dit on va peut-être revoir, en effet, la carte des sites. Non, vous y croyez pas.
Écoutez, c'est la preuve que la mobilisation des citoyens, elle a un impact sur les décisions et qu'il faut continuer à lutter. Ces Jeux Olympiques 2030, ça va être une catastrophe, bien sûr, écologique, mais aussi une catastrophe budgétaire. On ne peut pas, d'un côté, nous dire qu'il faut couper dans les financements des services sociaux, des services aux habitants, des services publics de proximité, dans la sécurité, dans tout ce dont ont besoin les gens pour vivre, et d'un autre côté, investir des millions d'euros dans un événement qui va durer une semaine. Vous savez, la Grèce,
ils sont toujours
en train de payer la dette des Jeux Olympiques à Athènes.
Mais les infrastructures ferroviaires et routières, elles existeront encore après les JO?
Oui, mais ça, à la limite, on n'a pas besoin des Jeux Olympiques pour savoir qu'il faut investir dans les infrastructures ferroviaires et routières. Je veux dire, tout le monde sait qu'il faut refaire les voies ferrées et investir dans le train. Ça, il n'y a pas de problème.
Oui, mais tout le monde sait, personne ne
le fait. Il faut qu'on ait une réflexion, vraiment, pour aller au bout du sujet. Moi, je ne suis pas pour qu'on arrête les Jeux Olympiques. Je suis un passionné de sport, comme beaucoup de gens, et j'aimerais qu'on ait une réflexion honnête et lucide, qu'on se mette autour d'une table. Mais on aura le même sujet sur les compétitions cyclistes. Hein. Vous savez, moi, je suis fan de vélo. Le Tour de France, on est face à des difficultés, même au niveau des températures, pour que les coureurs puissent continuer à pédaler dans des chaleurs caniculaires. Donc, il faut qu'on se mette autour d'une table pour savoir de quoi on a besoin ensemble. Et comment on peut faire pour préserver ces grandes compétitions qui sont aussi des moments de joie, mais où, par exemple, les déplacements des spectateurs posent des questions, la construction d'infrastructures pose des questions. Et on sait très bien, j'adore le biathlon, et là, les championnats du monde viennent de se terminer. On sait très bien que les Jeux Olympiques au Grand Bornand en 2030, c'est une pure folie. C'est une pure folie. Vous savez, le site de Bayard est quasiment fermé.
Ouais.
De Gap Bayard est quasiment fermé. Il est à peu près à la même altitude que le Grand Bornand, ou un peu plus, je ne sais pas exactement, mais je crois que c'est 980 80 mètres le Grand Bornand. Donc on voit bien que faire des compétitions à ces altitudes-là, c'est pas possible. Peut-être il faudra inventer des sites réguliers où les compétitions aient lieu toujours au même endroit, à des altitudes qui soient plus raisonnables.
Laurent Hérochaume, on a bien compris en effet que l'après, c'était aussi l'après Macron, mais c'est aussi un après dans les Alpes du Sud, un après pour les municipales. Vous allez vous positionner pour 2026 ?
Oui, évidemment. Alors l'après, ça sera le début. Là, la première réunion aura lieu mardi, demain. Donc ça sera décidé tous ensemble, évidemment. Pour les municipales, comme pour les élections législatives, nous, nous sommes des partisans de l'unité, même si les élections municipales ne sont pas des élections législatives. Et j'allais dire, elles sont bien plus intéressantes en termes citoyens, puisqu'elles permettent de rassembler largement, d'impliquer les citoyens, y compris sur les programmes, de faire co-construire comment vivre ensemble.
En parlant de co-construction, justement, là, vous parlez de cette réunion. Vous savez où je vais en venir, forcément, mardi. Ce mardi, réunion du côté de Gap. Il y a deux groupes à gauche qui veulent aujourd'hui faire participer le citoyen. Je vous entends sourire. Ambition pour Gap, union pour Gap. Alors, du coup, l'après va où?
L'après est un mouvement démocratique, donc c'est pas moi qui vais le décider. Par contre, ce qui est sûr, c'est que évidemment l'après du côté de l'unité. Donc, ce qu'on souhaiterait, c'est que les gens se rencontrent.
Oui. Et ça nous rappelle, Élie Cordier l'a clairement dit, pour Union pour Gap, il n'y aura plus de rencontres ou de propositions de rencontres.
On déplore et on trouve ça vraiment, vraiment terrible parce que ça crée une situation. On sait qu'il y a une possibilité d'une liste du Rassemblement National à Gap. On sait que tout ce que pense Roger Didier du fonctionnement démocratique des institutions. On voit très bien là sur la privatisation des lignes de bus. Alors là, c'est une catastrophe quand les gens seront au courant de la privatisation des lignes de bus à Gap.
On en a parlé ce matin sur Alpes.
Parfait. Eh bien, vive le journalisme de proximité, mais en gros, la gravité de la situation, j'espère que Élie, qui est un garçon raisonnable, sera capable d'ouvrir sa porte et de réouvrir le dialogue parce que les Gapensiens en ont besoin. C'est pas et je pense en plus qu'il y a des démarches qui sont complémentaires, c'est-à-dire que je pense que parfois, on oppose des choses qui ne s'opposent pas. Évidemment, Ambition pour Gap a une forte volonté de démocratie participative et d'horizontalité. Et Élie Cordier plaide plutôt une campagne de terrain et de porte-à-porte. Pour moi, ça ne s'oppose pas. Il faut prendre le temps d'aller rencontrer tous les Gapensais, mais aussi les impliquer dans les élections. Ils auraient vraiment tout intérêt à se rassembler. Voilà. Après, on verra. Les choses vont avancer petit à petit. C'est pas fini. Je pense que l'histoire n'est pas terminée.
C'est pas fini. L'après Alpes du Sud, l'association pour la République écologique et sociale, cette réunion qui a lieu donc ce mardi 18h30 à Gap, salle de la Mutualité, vendredi 28 février à 18h30, salle du Conseil municipal d'Aimé. Merci beaucoup Laurent Hérochaume d'avoir été avec nous sur Alpes 1.